qu'on écoute avec grande attention.
Un radiateur.
C'est électrique, hein?
Ça peut être électrique, tout à fait.
Ça peut être dans le salon, ça peut être aussi dans la cuisine. Est-ce que c'est un radiateur? À quoi qu'on pense? Non, Kevin, pas du tout. Bien tenté. Tu restes au bout du fil pour qu'on puisse prendre tes coordonnées et t'envoyer ce bon. On te souhaite une belle suite de journée, puis on espère je rejouer avec toi. À très bientôt. Bye bye.
Merci, bonne journée.
Le quiz.
Radio Chablais.
Le quiz.
T'arrives à lire sur les lèvres.
Le quiz. Avec Axel et Stéphane.
300 francs, c'est le montant de la cagnotte demain.
À demain.
Le quiz.
C'était le quiz avec Migrovo et ses 3500 articles bio. Migrovo, simplement bien vivre.
L'inforoute avec Calo, les pros du lavage auto, camion et car. Zone industrielle La Jonnère, à Rénaville-Neuve, calo-lavage.ch.
La circulation est fluide, prudence et bonne route.
Vos inforoutes au 0800 700 725.
Le restaurant Garden on the Lake de l'hôtel Bon Rivage et sa terrasse au bord du lac, bon-rivage.ch, vous souhaite un bon appétit.
Le Tour du Chablais avec le garage Alpoto, votre agent Subaru et Suzuki, à Villars-sur-Ollon et ses nombreuses primes printanières à découvrir. Garagealpoto.ch.
Football, 4e Ligue Valaisanne, Massangers reçoit l'US Port Valais ce vendredi à 20h15 au Stade Saint-Jean, avec le soutien de Radio Chablais.
Les étapes du Tour du Chablais avec Pélissier Sport à Martigny, sponsor principal.
L'heure exacte avec JBC Solutions SA, votre partenaire en imprimante multifonction et gestion électronique de documents depuis 30 ans.
Il est midi sur Radio Chablais, bon appétit à vous. Il est l'heure de faire un point sur l'actualité de ce jeudi 25 avril 2024.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Voici les titres du journal.
Le musée de Montet pourrait ouvrir cet automne, géré par l'association du Vieux Montet. Le futur lieu culturel fera la part belle à l'histoire industrielle de la ville, tout en attirant le jeune public. La justice vaudoise a présenté hier son bilan de l'année 2023, une année marquée notamment par une augmentation des dossiers auprès des offices des poursuites et faillites. La commission de la concurrence sanctionne Swisscom sur son développement de la fibre optique, explication dans ce journal. Et le nouveau président du BBC Montet Chablais a officiellement été intronisé hier soir lors d'une assemblée générale extraordinaire. Il en a profité pour présenter ses nombreux projets.
Du soleil pour la météo pour ce jeudi avant de retrouver les nuages et les averses pour demain. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Valérie Favre. Bonjour Valérie.
Bonjour. Le futur musée de Montet pourrait accueillir sa première exposition en fin d'année. Actuellement en travaux dans le château de Montet, le lieu dont le nom reste à trouver abritera des expositions temporaires et fixes. Parmi celles-ci, une sera dédiée à la ville industrielle de la cité. Équipée de 5 salles totalement rénovées et gérées par l'association du Vieux Montet, le lieu pourrait devenir bien plus qu'un musée au terme du chantier. Jérôme Butet, le président de l'association du Vieux Montet.
Ce château a des richesses, il est mal connu du public et même des Montaisans. Effectivement, la cour pourrait être utilisée pour différentes choses. Et puis, il y aura aussi la création d'un accès depuis une des salles sur les jardins autour du château. Alors, ces jardins pourraient servir pour des prolongations d'expositions avec des sculptures ou des objets, mais aussi peut-être pour utiliser lors des vernissages.
L'association réfléchit à plusieurs moyens pour intéresser les jeunes générations au patrimoine de leur ville. Jérôme Butet.
Ça pourrait être une option d'avoir une salle où on pourrait faire venir des classes, les intéresser à l'exposition temporaire peut-être du moment ou aller aux expositions permanentes avec des moyens ludiques, les faire participer un petit peu et intéresser à l'histoire de leur ville. Oui.
L'investissement s'élève à environ 650 000 francs pour la commune. Pour rappel, l'association a vu le jour en 1938. Elle collecte, conserve et met en valeur le patrimoine montaisan, un sujet de Guillaume Abbé. Le Chablouse reprend du service les 9 et 10 août prochains dans le parc du Crocheton. Pour cette 6e édition, le festival Montaison accueillera les Valaisans de Luke Healy and the Cavalry en ouverture, suivi des Vaudois de The Two, puis la Française Cathy Beauvais et son band DTG Gang pour clore cette première soirée. La deuxième soirée sera ouverte par un groupe ultra local, les Montaisans Vincent Brothers, qui comprend le chanteur Vincent Barbonne, suivi par The Strikers, un groupe français, et enfin le groupe belge The Blues Bones. La manifestation gratuite recherche encore des bénévoles. L'État de Vaud souhaite davantage de femmes dans la direction des clubs sportifs. Il part du constat que ces dernières ne représentent que 34% des membres de comités et moins d'un quart des postes de présidence. Il a décidé d'agir en leur proposant une formation gratuite dès le mois de septembre. Par ailleurs, une campagne est menée dans le but de les inciter à s'engager, mais aussi pour sensibiliser les sociétés sportives au manque de représentativité des femmes dans leurs structures.
Les activités de la justice vaudoise ont augmenté l'an dernier.
Près de 59 000 nouvelles affaires ont été enregistrées, ce qui représente une hausse de 8% par rapport à 2022. Les offices des poursuites et des faillites ont également reçu un nombre plus important de dossiers. En ce qui concerne le nombre de faillites, l'Est vaudois sort du lot. Christophe Maillard, vice-président du tribunal cantonal.
Oui, alors c'est vrai que la région la plus touchée, c'est l'Est vaudois, avec une augmentation de plus 20%. On a essayé de déceler quelles pouvaient être les explications à ce phénomène, mais il n'y a pas de cause objective qui s'impose dans tous les cas. Donc c'est un constat qu'on peut faire sans explication particulière.
Et cela ne va pas aller en s'arrangeant, selon Christophe Maillard, qui s'est déjà penché sur les premiers résultats de l'année en cours.
On a sorti quelques premiers chiffres pour le début de l'année en tout cas. Il semblerait que la tendance à la hausse se confirme. Il faudra voir si sur la fin de l'année c'est toujours le cas. Mais en tout cas, le premier trimestre n'est pas très, très encourageant.
Par ailleurs, la mise en œuvre de plusieurs projets d'envergure a commencé, notamment celui portant sur le consensus parental dans l'Est vaudois. Lancé il y a un an, il vise à favoriser une meilleure collaboration entre parents lors de séparations ou de divorces conflictuels, un sujet réalisé par Léa Journaux. Les salaires nominaux ont connu l'an dernier une progression nettement supérieure à celle de ces 4 dernières années, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique. Toutefois, l'inflation est venue jouer les troubles faites et le pouvoir d'achat des Suisses a baissé.
Nouvelle attaque contre Swisscom.
L'opérateur est déjà sous le feu des critiques pour son rachat de Vodafone Italie et son entrée sur le marché des assurances. C'est maintenant la commission de la concurrence qui sanctionne l'ancienne régie fédérale. La Comco condamne Swisscom à verser 18 millions de francs pour avoir tenté d'imposer un monopole sur le réseau de fibre optique. Les explications de notre correspondante à Berne, Marie Vieumier.
Le standard de construction pour la fibre optique est le fruit d'un consensus entre les différents acteurs du marché. Il y a plus de 15 ans, ils ont opté pour un modèle à 4 fibres qui relie directement la centrale à l'utilisateur. Un opérateur peut donc utiliser librement une fibre avec la technologie de son choix. Mais en 2020, Swisscom a commencé à construire en arborescence, avec une fibre centrale séparée ensuite en plusieurs branches. Cela signifie que les utilisateurs se partagent les capacités disponibles d'une même fibre et surtout que les concurrents n'ont plus un accès direct de la source jusqu'à l'utilisateur. Ils doivent se contenter de louer à Swisscom une des branches de raccordement. Les concurrents dépendent donc de la technologie et des prix de Swisscom. La commission considère cela comme une violation du droit des cartels. Et vu que la durée de vie d'une fibre optique est de 40 à 50 ans, la Comco relève que Swisscom aurait entravé la concurrence pendant des décennies. La décision peut encore faire l'objet d'un recours au tribunal administratif fédéral.
Pour Swisscom, la décision de la Comco est incompréhensible. L'entreprise est convaincue que ses concurrents auraient pu continuer de proposer des offres attractives via la fibre optique. Swisscom annonce que les coûts de déploiement vont augmenter et que du retard est à prévoir dans les zones rurales. À l'étranger, les ailes du Moulin Rouge, célèbre monument parisien, sont tombées la nuit dernière, ont indiqué les pompiers, confirmant une information de BFM TV. Aucun blessé n'est à déplorer. Les sapeurs-pompiers de Paris ont ajouté qu'il n'y avait plus aucun risque d'effondrement. Les raisons de cette chute sont pour le moment inconnues. Ça s'est passé après la fermeture, heureusement, a précisé le Moulin Rouge en indiquant que chaque semaine, la direction technique du cabaret vérifie le mécanisme des ailes du moulin et n'a constaté aucun problème. Le nouveau président du BBC Montet-Chablais a des projets plein la tête. Claude Potier a été intronisé hier soir lors d'une assemblée générale extraordinaire. Il souhaite notamment renforcer le comité, créer plus de synergies avec le BBC Trois Torrents, mais aussi développer le mouvement jeunesse du club. Idée également abordée, la construction d'une nouvelle salle. Claude Potier.
Pour moi, c'est plus qu'une idée. Et c'est pour ça que si on arrive vraiment à créer des synergies avec le BBC Trois Torrents, avec toute la région, etc., je pense qu'on peut présenter un projet tant au niveau des deux municipalités, mais aussi au niveau du canton, puisque la loi cantonale sur le sport permet aussi un financement à hauteur de 30% d'une infrastructure si on est reconnu comme centre de compétences pour le basket. Et moi, je pense que si en Valais, on reconnaît Viège, ou on a reconnu Viège comme pour le hockey, Sion, pour le football, eh bien, pourquoi pas monter le Chablais pour le basket.
Claude Potier remplace donc Laurent Duchaux à la tête des Sangliers. Après 4 ans au BBC Montet-Chablais, le désormais ex-président était soulagé de s'en aller. Il avait dernièrement fait mention d'un épuisement, Laurent Duchaux.
Certainement que j'étais un peu trop égoïste et j'ai certainement peut-être pas assez délégué, mais je connais Claude, ça fait 2 ans qu'il est au comité avec nous, donc je pense que lui, il a une organisation qui est complètement différente que la mienne et il va certainement réussir à faire tout ça.
Ouais,
et
puis quand même un petit déchirement aussi de quitter cette présidence. Alors on a parlé de soulagement, déchirement, on peut aussi le dire?
Non, soulagement, pas un déchirement, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir, donc je vois pas pourquoi je devrais avoir un déchirement. Si j'avais eu plein de d'insatisfaction, je pourrais le comprendre, mais là c'est beaucoup de plaisir, donc c'est un soulagement.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. À noter que Claude Potier sera notre invité en direct lundi prochain dans notre émission, 17h, Le Mag.
L'actu en continu, radiochablais.ch. La météo.
C'est un véritable plaisir que de voir le soleil briller franchement aujourd'hui et en toute région. Et vous savez quoi, il faut en profiter parce que une augmentation de la couverture nuageuse est prévue en soirée. 12 degrés, c'est la température maximale pour la plaine. Il fera 8 à Valilier et 6 à Grillon. Demain, le ciel sera nuageux avec un risque d'averse présent toute la journée. Quelques éclaircies seront tout de même possibles en plaine. Il fera de 4 à 12 degrés en plaine, de 4 à 10 à Corbérier et de 0 à 8 à Morgin.
La météo pour les 6 prochains jours, radiochablais.ch.
Yeah.
Radio Chablais. Suivez-nous, on vous suit.
We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights. It was just you and I. When something dies doesn't mean that it's over. We're not like them, we don't have to be cold as ice. We could be you and I. So take my hand for the last time and find my eyes with yours. I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love. But look at all the love we made. I'm all out of life. Oh, babe, it's killing me to say. I'm all out of love. I'm all out of life. I'm all out of fight. We were two broken parts from the same old junkyard. Battered and bruised, and we tried so goddamn hard.
Sur Chablais, 12h16. Avant de retrouver Plan Large, on écoute Chapel Rohan en coup de cœur. Il y aura aussi Aurel San.
Radio Chablais, les petites annonces.
À vendre un lit de 160 par 200 cm avec sommier en bois clair, tête de lit et deux tables de nuit. Prix 500 francs. Contact au 076 523 77 65.
Votre annonce peut prendre sa place ici, à radiochablais.ch.
Profitez du franc vitaminé. Cette semaine, pour 1 franc seulement, 125 g de myrtille, 250 g de tomates dattes Migros bio ou une botte de radis. Maintenant à Migros.
Le tour du Chablais avec Top Marché, 5 succursales dont Montet et Aigle, des prix avantageux et une grande sélection de viande suisse. top-marché.ch.
Le Tour du Chablais avec le Garage des Sports à Montet. Votre agent exclusif Kia et son nouveau Kia Sportage avec 7 ans de garantie. GarageDesSports.ch.
La météo avec la clinique Estémédis à la Maison de Santé de Colombier-Murat et ses traitements corporels pour sculpter votre silhouette en vue de l'été. Estémédis.ch.
Tu aimes tenir à jour des listes? Tu ne rates jamais une occasion de repartir avec des cadeaux? À partir du 29 avril, écoute Radio Chablais tout au long de la journée pour gagner le sac à dos Chablais à 8h10 dans les Lève-Tôt. Inscription et conditions de participation sur radiochablais.ch.
Participe aux prochaines élections communales pour partager tes convictions et renforcer tes compétences. Toutes les infos sur prendtaplace.ch.
Renault.
Les plus belles histoires sont celles qui se réinventent sans cesse. C'est le cas de la Renault Clio E-Tech Full Hybrid. 145 chevaux, jusqu'à 900 km d'autonomie et jusqu'à 80% de conduite électrique en ville. Renault Clio, en version essence, dès 139 francs par mois. L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.
Logipro à Val-d'Illier. Votre développeur immobilier avec brevet fédéral et promoteur de savoir-faire depuis 2011. Logipro-immo.ch vous souhaite une bonne journée.
La rubrique du professeur Stéphane Corr vous est présentée par les produits BliBlablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV.
Bonjour Stéphane Corr.
Bonjour Mégane.
Plaisir de vous retrouver. Vous êtes notre spécialiste du numérique. Alors aujourd'hui, on va parler d'un terme que je ne connaissais pas du tout. C'est la guerre cognitive. C'est ça?
Alors, voilà, c'est l'idée de s'attaquer à notre cerveau pour quelque part influencer nos ressentis, nos opinions et au final nos décisions.
Et par quel biais ?
Par le biais d'Internet aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire qu'on va amplifier certaines situations, on va créer d'autres situations au niveau informationnel pour que émotionnellement ces situations nous touchent et pour son conséquence, généralement dans le cadre en tout cas de la guerre cognitive, d'affaiblir notre confiance dans l'État, dans les institutions, de quelque part créer le doute, l'incertitude, de créer un sentiment d'anxiété au sein d'une population, d'un État ou autre. Par exemple, récemment en Allemagne, il y a eu une affaire qui a défrayé la chronique, c'est que les conversations d'un certain nombre de hauts gradés de l'armée allemande ont été divulguées par des espions russes. Mais okay. On dit, c'est un peu bizarre, parce que normalement, quand des espions arrivent à intercepter des communications, ils vont garder
pour eux,
cette information-là pour continuer à avoir accès aux communications dans le futur. Et en l'occurrence, alors là, il faut quand même relever que les communications n'étaient pas forcément très protégées, ce qui est quand même très inquiétant. Ils ont utilisé une plateforme de vidéo en ligne sans la sécuriser par rapport aux options qui étaient disponibles. Toujours est-il que la communication a été interceptée. Il s'agissait d'une communication qui avait trait aux relations de l'Allemagne avec l'Ukraine et l'envoi de certains types d'armes à longue portée, ce qui était un sujet très épineux au niveau européen. Et le fait d'avoir révélé cette information publiquement a créé une forme de clash, en tout cas des risques de dissension entre les différents pays européens qui sont unis, entre guillemets, dans le soutien à l'Ukraine. Mais le but était aussi de fragiliser ce soutien de la population envers le politique en Allemagne, tout comme de créer justement un sentiment un peu d'incertitude et d'humilier en passant le gouvernement allemand pour le décrédibiliser aux yeux de sa population ou des partenaires européens.
Ça fait presque partie d'une arme de guerre en fait finalement, de s'attaquer à la population comme ça directement quoi.
Exactement. Aujourd'hui, finalement, les conflits ne restent plus limités dans le périmètre physique dans lequel ils se déroulent, mais le cyberespace a créé une dimension extraterritoriale de ces conflits, où, de plus en plus, on agit en dehors du périmètre physique sur les acteurs qui sont en soutien à l'un des belligérants. Et à ce niveau-là, ben, justement, ce conflit, cette guerre que mène la Russie contre l'Ukraine en est un bon exemple. Et ça se fait à travers les réseaux sociaux où finalement ces pays qui restreignent la liberté d'expression par un cadre légal extrêmement contraignant vont utiliser notre propre liberté d'expression pour exprimer tout ce qu'ils ont envie d'exprimer en termes de messages, et ils peuvent atteindre chaque personne à travers un smartphone, à travers un réseau social, alors que de notre côté on pourrait pas faire la même chose étant donné que l'accès aux réseaux sociaux ou aux citoyens est plutôt limité dû à ces contraintes légales et autres dans des pays autoritaires du type de la Russie à l'heure actuelle.
Merci beaucoup Stéphane Corr, c'était très intéressant. À la semaine prochaine.
Merci.
La rubrique du professeur Stéphane Corr vous a été présenté par les produits BliBlablo de Net Plus, distribués par Genedis.
Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une.
Le problème de la vie c'est qu'il n'y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois j'aurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. Comme dans toutes les chansons de Varia, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. Être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être, je sais. Tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais. Mon ami, laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois j'aurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer. Enfin, sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.
C'est un coup de cœur Radio Chablais.
With their arms out like an angel through the car, some real.
12h30 sur Radio Chablais, l'heure de Plan Large. Et dans Plan Large aujourd'hui, Florian Barbet rencontre le vigneron et ancien syndic d'Yvorne, Philippe Gex, pour parler entre autres choses du projet Yvorne Grandeur Nature. Il faut noter que cet entretien a été enregistré avant que le gel ne s'abatte sur les cultures du Chablais. Vous l'entendrez dans l'entretien, Philippe Gex évoque ce risque saisonnier et s'en inquiète. Depuis, ce risque est devenu réalité puisque les derniers jours ont lourdement pesé sur les vignes de la région.
Plan Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan Large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Bonjour Philippe Gex.
Bonjour Florian.
Vous m'avez donné rendez-vous à Yvorne. Et d'Yvorne, on a pris une voiture pour aller dans un de vos vignobles, le fameux
Clos du Creuset-Grillé.
Voilà, et lui, il est à Aigle. Hein.
Il est à Aigle, mais comme on le dit pour le château Yquem, on est contigu Yvorne.
Contigu Yvorne. Ça, c'est un argument marketing.
Ah, naturellement.
C'est un peu votre vin de prestige. Hein. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté sur le site de la Pierre Latine, qui est votre domaine.
Ah, oui.
Mais il n'est pas d'Yvorne.
Il n'est pas d'Yvorne. Aigle est une appellation, et probablement l'appellation qui marche le mieux dans le Chablais, pour, à cause d'un vin dont on taira le nom, mais que chacun reconnaît à cause d'un fameux lézard.
Voilà.
Et puis ce Clos du Creuset-Grillé est fameux parce qu'il est extraordinaire sur le plan géographique, extraordinaire sur le plan d'exposition. Et puis avec ce domaine, on fait partie de la mémoire des vins suisses qui répertorie les plus beaux domaines dans chaque région.
Donc ça, c'est un catalogue finalement des meilleurs terroirs.
Ouais, c'est des journalistes suisses alémaniques historiquement qui ont décidé de lister dans le fond dans chaque région un ou deux vignobles. Et nous faisons partie des deux vignobles du Chablais avec le Clos du Creuset-Grillé qui font partie de la mémoire des vins suisses.
Et Yvorne, parce que vous dites Aigle est l'appellation qui se vend le mieux. Yvorne, c'était quand même la carte d'identité en Suisse alémanique,
oui,
notamment.
Oui, tout à fait. Yvorne est un vignoble prestigieux et qui a encore une certaine renommée. Mais Aigle, depuis des générations, et grâce à la maison dont on tira le nom.
Ouais, je peux la dire,
qui,
Badou.
Oui, c'est
voilà.
Badou, bien sûr, qui a positionné Aigle sur la carte des vins suisses à cause de son fameux vin, le Lézard, qui a une notoriété nationale, évidemment, mais mondiale aussi, parce que c'est un des seuls vins qu'on retrouve à New York ou à Shanghai. Ce qui fait qu'Aigle est aujourd'hui, dans le Chablais, probablement l'appellation la plus demandée.
Bon, on va parler de Yvorne Grandeur Nature, hein, ce projet ambitieux, lancé il y a quelques années, on va voir où on en est. Avant ça, on revient un peu sur vous, Philippe Gex, vous avez abandonné la politique, j'ai regardé, ça fait presque 10 ans maintenant.
2015, exactement.
Ouais.
Ah ouais.
Ça vous manque ?
Pas du tout, mais vous pouvez me poser une deuxième question, Florian.
Non, c'est comme Roger Federer, ça vous manque l'US Open ? Non, ça va. Non, mais bon, c'est un bon souvenir quand même.
Oh, excellent souvenir. J'ai adoré être syndic d'Yvorne et j'ai adoré ne plus l'être.
Bon, on va garder cette réponse philosophique. Vous êtes recentré sur le métier du vin. C'était déjà votre métier avant, évidemment. Moi, quand je vous vois et je vous rencontre, j'ai toujours l'impression que vous êtes dans ce terroir vaudois, la personne de référence. Vous êtes le couteau suisse, vous connaissez tout le monde. En Suisse, à l'étranger, les grands domaines, vous exportez, vous avez fait quelque chose pour ce vin vaudois de tout à fait considérable. Je le dis, vous allez faire le modeste, mais
je vais pas le faire.
Je
vais le dire.
Ouais. Hein.
Non, mais vous savez, Florian, un peu grâce à la commune, j'ai été syndic assez longtemps, j'ai eu des activités, j'étais gouverneur de la confrérie du Guillon, j'ai été juge au tribunal des mineurs, j'étais président de Terre à Vin, enfin bref, toutes ces diverses occupations que j'ai occupé pendant, je sais pas, 25 ans, ont créé effectivement certains réseaux dans tous les domaines, que ce soit politique, viticole, journalistique, qui aujourd'hui on donne quelques résultats, parce qu'on connaît les gens. Évidemment, quand on connaît les gens, et comme vous le savez, tout est plus facile.
Ouais, mais quand on a un réseau, on peut l'utiliser pour soi, on peut aussi comprendre, et on en tire bénéfice forcément, mais que l'union fait la force, et qu'il faut jouer collectif. Vous êtes parti dans tous les pays du monde pour faire la promotion des vins vaudois, pas de vos vins.
Non, mais bien sûr, mais j'ai toujours pensé que l'important, c'était de boire du vin suisse. Et puis si, par hasard, c'était du vin vaudois, ce serait le Saint Graal. Et puis évidemment, si dans les vins vaudois, on buvait de l'ivorne et si possible la pierre latine, évidemment, c'était gagné. Mais on est plus intelligent tous ensemble.
C'est l'inverse de la théorie à qui je ne donnerai pas de paternité, mais qui est assez classique. Hein. Je préfère mes voisins aux gens de ma ville, les gens de ma ville aux gens de mon pays, les gens de mon pays aux étrangers. Là, c'est l'inverse, en fait. Je prends la globalité et puis je sais que, comme individu, je vais en tirer quelque chose.
Mais bien sûr, et c'est dans le fond, là, l'origine de ce projet Yvonne, une grandeur nature qu'on évoquera tout à l'heure. Vous savez, faire des efforts en termes d'environnement sur son domaine personnel, c'est assez facile. On prend les mesures, on décide, on le fait. Le faire sur l'entier d'une appellation, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il s'agit de convaincre le vigneron par définition. Est-ce que j'ose dire, peut-être comme les pasteurs, comme les agriculteurs, c'est des gens foncièrement indépendants qui n'aiment pas trop qu'on leur force un petit peu la main. Donc c'est un travail de longue haleine, mais c'est évidemment plus intéressant quand on est tous ensemble.
Quand on est ensemble pour le faire. Bon, les vins suisses, hein, vous disiez, c'est plutôt pas mal de boire des vins suisses. On a toujours ce problème, hein, du prix par rapport à la concurrence étrangère, de la taille aussi du terroir suisse, qui fait qu'on n'a pas les quantités pour abaisser les prix. Le virage de la qualité, maintenant, il est global en Suisse. Il s'est fait en Valais, il s'est fait dans le canton de Vaud. On doit miser là-dessus plutôt que sur la quantité.
Mais c'est la condition de notre survie. J'entends, on ne peut pas régater avec les vins du Nouveau Monde, les vins étrangers produits en grande quantité à vil prix. Donc on est condamné à occuper le sommet de la pyramide. Et c'est assez drôle de voir que finalement à l'export, puisque Florian vous en parliez tout à l'heure, nous exportons nous au Japon et aux États-Unis. Le domaine dans lequel on est aujourd'hui, le Clos du Creusot-Grillé, on va pas aborder d'aspect mercantile, mais si je vous vends une bouteille aujourd'hui, elle coûte 32 francs. À Tokyo, ils la revendent 140. Et ça ne pose pas de problème majeur. Donc on mesure aussi à travers l'exportation de nos vins l'image de la Suisse à l'étranger. Et on a une image, pour l'instant, extraordinairement qualitative.
Mais justement, il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif, hein, quand on a compris cette théorie qu'on devait miser sur la qualité et la clientèle locale parce qu'on n'a pas les quantités pour faire de l'exportation à grande échelle. C'est tout de même important de garder quelques points d'exportation comme ça pour l'image, comme vous dites.
Ah mais absolument. Moi, j'ai toujours pensé qu'on devrait idéalement exporter 5 à 10% de nos vins à l'étranger. Pourquoi 5 à 10% ? Ça permettrait en permanence de soulager le marché suisse. Et le marché suisse est très compliqué. On a vite trop de vins. On n'en a vite pas assez. Ça a un problème évidemment tout de suite sur les prix, sur les volumes. C'est très compliqué. Si on sortait de la Suisse un certain volume, parce qu'on est toujours, je ne suis pas tout à fait sur des chiffres, mais je pense qu'on exporte toujours 1% de notre production ou 1,2%. C'est tout à fait confidentiel. Donc ça n'a pas d'impact. Si on arrivait à exporter ces 5 ou 10% dans des pays qui sont remarquables sur le plan de l'audience, je pense d'abord à la France, mais c'est vraiment le pays le plus compliqué pour exporter.
Le plus difficile
Les États-Unis ou le Japon, qui sont friands de nos vins. Je ne sais pas si vous êtes amateur de sushis, Florian, mais magnifiques sushis, il n'y a qu'un vin qui va bien, c'est le Chasselas. Et à Tokyo, il y a un 3 étoiles, un 3 macarons Michelin qui ne vend que du Chasselas vaudois.
Ouais.
Parce qu'il a découvert ça avec ses sushis et c'est mille fois mieux qu'un vilain traminaire odorant ou un Sauvignon du Sud qui sent la traverse de chemin de fer.
Ou un sac qui est tiède. Non, parce qu'on ne va pas entrer là-dedans. Bon, mais il y a quelque chose. Est-ce qu'on existe ? Est-ce que les vins suisses existent sur la carte du monde ?
Alors, comment vous répondre le plus honnêtement possible ? Non, ils n'existent pas. Mais si on se le répète à l'envi que nous n'existons pas, évidemment,
on n'existera jamais. Ouais.
On se rend compte assez facilement lorsqu'on va à l'étranger. Moi, je l'ai fait très souvent avec l'Office des vins vaudois, avec Pierre Keller, qui reste dans nos mémoires comme le type le plus formidable que le canton ait connu. Eh bien, on se rend compte que qu'à l'étranger, nous avons du succès. Mais il ne faut pas faire le Suisse qui attend que ça se passe les mains dans les poches. Je ne vais pas vous citer une plaisanterie de mon vieux copain Raoul Cruchon à propos des gens qui ont les mains dans les poches, mais néanmoins, c'est ça, on est un peu attentiste, on est un peu mou du genou. Si on fait l'effort d'y aller, de le faire, ça marche assez facilement.
Il faut investir ce genre de réaction intéressante et très sympathique, hein, qui est... L'étonnement positif, c'est bien.
Et puis,
ça.
Je dois avouer que si on va assez loin de la Suisse, je ne vous parle pas des pays environnement, mais si on va aux États-Unis, au Japon, en Chine, l'image de la Suisse est quand même extrêmement flatteuse. On sait que c'est un petit pays, qu'il est montagneux, qu'il y a des coteaux, c'est difficile, on sait que la vie est chère en Suisse. Le consommateur final, il s'attend à payer un certain prix. Alors qu'évidemment, si on va chez nos amis de Savoie, qui connaissent la Suisse, etc., ils sont un peu étonnés qu'on vende un Chasselas à 30 francs, alors qu'on peut trouver de modestes vins blancs étrangers à 3 ou 4 francs dans la grande distribution.
Donc il faut garder ces éléments extérieurs. Ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup fait dans le canton de Vaud avec l'office des vins vaudois. Ça devrait être plus large encore. Swiss Wine, ça marche ?
Oui, non, mais il y a des efforts méritoires. Vous avez vu que les chambres fédérales ont admis un crédit supplémentaire pour valoriser l'exportation des vins. Donc ça bouge.
Oui, à chaque fois, on dit que ça correspond à des cacahuètes par rapport au seul crédit que l'Italie offre à ses vins.
Alors, bien entendu, c'est ce que l'Italie met à disposition pour le marché suisse. Les Autrichiens font un boulot épatant en exportation sur le plan privé, mais aussi sur le plan de l'État. Mais il faut arrêter de se plaindre. Je reste un vieux libéral. Je suis pas fou de l'intervention de l'État dans tous les domaines, mais dans ce domaine-là de l'exportation, je crois que l'État nous soutient à présent efficacement. Mais c'est surtout à nous, c'est de l'entreprise privée. Et puis surtout, si on veut exporter, on doit exporter ce qu'on a de meilleur et pas ce qu'on a de moins bon. C'est comme le tourisme, j'entends. On montre ce qu'on a de mieux. Imaginez d'exporter du Chasselas à 4 francs la bouteille au Japon, ça n'a pas de sens. Il y en a des bien meilleurs et des moins chers.
Bon, on va passer une large partie de la deuxième partie de cet entretien à parler de grandeur nature, mais on va peut-être y aller avec un dernier angle. Hein. On a abordé l'aspect commercial du monde du vin suisse. Il y a l'aspect climatique, environnemental. Vignoble grandeur nature va y répondre. Le climat, ce fameux Chasselas là, il va tenir combien de temps avec un climat qui se réchauffe ?
Alors écoutez,
parce qu'il est parfait pour nos latitudes, mais si ça se réchauffe.
Aujourd'hui, il est parfait pour nos latitudes. Il y a des cépages qui sont moins parfaits. Je pense en particulier au Pinot Noir qui a une maturité excessive la plupart du temps. Donc on doit se poser des questions sur l'encépagement. Pour le moment, le Chasselas est parfaitement idoine sous nos latitudes. Plusieurs raisons, le climat lui convient et surtout dans Chablais en particulier le terroir lui convient, on a un terroir pour le Chasselas. Si on devait le remplacer, ce qui sera peut-être le cas dans 50 ou 80 ans, ça sera très compliqué, mais on vit ce changement climatique en direct.
Il y a des vins très bons plus au sud qui pourrait s'adapter ici.
Si vous prenez les augmentations de température, je crois qu'un vin qui est cultivé à Bordeaux, dans 10 ans, pourrait être cultivé à Lille ou à Bruxelles. Donc on le vit tous les jours.
Les premiers vignobles en Scandinavie, en Angleterre.
Il y a des vins épatants en Angleterre. C'est quand même pas un pays qui est originellement favorable au vin.
Bon, il y aurait les Vermentino du Chablais alors.
Non, peut-être pas jusque-là. Moi, je serai plus de ce monde, bien heureusement.
Bon, on va se retrouver, hein, Philippe Jex, d'ici quelques instants pour la deuxième partie de cet entretien. On va parler de ce beau projet Grandeur Nature à Yvan. Satisfaction in me. On se retrouve dans ce vignoble printemps. Ça démarre quand là ? J'ai vu les bourgeons. Hein. Les bourgeons sont là déjà.
Oui, là, c'est déjà démarré depuis 10 jours. On n'a jamais vu démarrer aussi tôt.
C'est vrai ?
Il y a 15 jours, il y avait déjà des bourgeons dans certaines vignes. C'est tout à fait extraordinaire.
Donc ça veut dire, sauf Aléa, on sait que.
Il y a quelques règles. 100 jours après ci, 40 jours après la véraison, 100 jours après la floraison. Mais ça, ça ne faut pas trop y compter. Mais on sait par définition que si ça démarre très tôt, on vendangera très tôt.
Ouais.
Le seul problème qu'on voit, c'est que ça démarre très tôt en mars ou en avril. Et comme on risque de geler jusqu'à fin mai, les vignerons dorment mal pendant quelques semaines.
Oui, là on est dans le, comme les arbres fruitiers d'ailleurs,
exactement,
on est dans ce moment dangereux
moment,
où s'il y a une gelée nocturne.
Ah, c'est cuit là.
Ouais.
Ah, c'est cuit là, ouais. On a eu de la pluie, il y a de l'humidité. S'il fait moins 1, moins 2.
Mais il n'y a rien à faire. Parce que dans le Valais central, on voit les bougies, on voit l'arrosage.
Il y a quelques essais, des petites choses comme ça. Aux bougies, dans les plats, dans la plaine, j'y crois, évidemment, ça fonctionne. Dans le coteau, vous savez, vous connaissez le froid,
les airs,
etc. Ouais. Donc je pense que dans le coteau, ça ne sert à rien.
Bon, ça fait partie de l'histoire millénaire de l'agriculture, du vin, c'est le climat.
C'est ce qui rend ce métier
merveilleux.
Il est fait de merveilles et de modestie.
Et voilà, de grandes misères et de beaux plaisirs. Bon, vignoble grandeur nature, Ivorne grandeur nature plutôt, c'est un projet par rapport à ce qu'on disait en première partie, hein, il faut se mettre dans l'époque, à la fois d'un point de vue environnemental et d'un point de vue commercial, en analysant, en faisant une sorte de photographie et en agissant sur un terroir. Et l'originalité de ce truc, c'est qu'on le fait tous ensemble. 2019 lancé.
Ouais, 2019, lancé ce projet. On va pas revenir sur l'épisode du Covid. Évidemment, il s'est rien passé pendant une année et demie pour les raisons qu'on
s'est pas. Parce qu'en 2019, on disait 4-5 ans.
C'est toujours 4-5 ans, mais on peut considérer dans le fond que le projet a démarré en 2021-2022, ouais. Effectivement, avec la Haute École de Changin qui nous accompagne dans ce projet. On a la majorité des surfaces et des vignerons qui font partie de ce projet, qui est dynamique. On a trouvé le financement, comme vous le savez, pour ce projet sur 5 ans. Avec en un montant très conséquent qui a été financé par la fondation de famille Mava, la fondation de la famille Hoffmann. Et puis aujourd'hui, on y travaille
juste un mot sur cette fondation, la famille Hoffmann, famille de la pharmacie, oui. De la chimie, et qui a œuvré pendant de très longues années, Luc Hoffmann, fondateur de cette fondation, dans l'environnement, à travers le monde entier.
Absolument.
Et c'est un petit peu le dernier projet, parce qu'elle est plus active. Là.
Absolument, c'était à ma connaissance, le dernier projet financé par la fondation Mava. Non, pas des montants comme ça, mais si vous saviez, on ne va pas en parler à l'antenne, mais les montants extraordinaires qui ont été versés à travers cette fondation pour la protection de l'environnement dans le monde, ça relativiserait l'impression qu'on a parfois sur les personnes très riches.
Ouais.
Ceci mis à part.
On peut débattre de ça.
Oui, on peut débattre, ça fait l'objet d'un autre sujet, mais j'ai des choses à vous dire. Et puis, donc, ce projet fonctionne, Changin nous accompagne là-dedans de manière extraordinaire. On a fait, comme vous l'avez signalé, en état des lieux au début de ce projet en 2019 avec Raymond Delars, qui est biologiste à Hollon, et avec son bureau qui a fait un état des lieux pour savoir comment était le vignoble d'Yvorne, ce qui nous a permis...
Comment était ? Parce qu'on sait qu'en gros c'est du Chasselas et quelques autres cépages.
Oui, mais ça, il n'a pas fait l'analyse des cépages, mais l'analyse du sol, de l'environnement,
les biotopes, les autres plantes.
Absolument, les autres plantes, les oiseaux, les mollusques, les escargots, les serpents, les arvers. Le bruyant zizi et la linotte mélodieuse, c'est des oiseaux qui nous rappellent quelque chose. Et puis le constat était finalement de se dire, tiens, malgré une culture intensive, le vignoble d'Yvorne est en bon état, avec la périphérie que sont les forêts de la commune d'Yvorne. Et puis sur la base de ce constat, on a pu faire un projet avec Changin, sur un programme sur 5 ans, pour que ce projet... On a toujours utilisé le mot bio qui fait parfois peur. C'est pas tellement l'objectif bio. C'est de mettre en place tous ensemble un vignoble vertueux, respectueux de l'environnement, de la biodiversité. En 2 mois, faire le maximum pour l'environnement, tout en ayant à l'esprit que l'entreprise doit gagner de l'argent. Parce que c'est ça, dans le fond, qu'il faut mettre dans la balance. On peut faire de l'écologie extrême.
Bon, vous dites le mot bio fait peur, mais si des gens comme vous se mettent à l'utiliser, oui, il fera moins peur. Vous citez sur le site internet de ce projet que quelques grands domaines très prestigieux dans le Bordelais, etc., se sont mis au bio, à la biodynamie, non seulement pour des idées de vertu, mais aussi pour des idées économiques. Je peux vous
donner un scoop. Il y a un fameux domaine en Toscane, très fameux domaine, peut-être le plus important et le plus connu à l'étranger, qui nous a contacté en fin d'année, le directeur général, pour dire, on a entendu parler par une fiduciaire luganaise, je ne sais pas pour quelle raison, on a échangé pendant des heures au téléphone et par vidéo, il souhaite prendre notre modèle Yvorne grandeur nature pour en faire un modèle dans leur domaine. Pour ne pas le cacher, c'est Sassicaia.
C'est
quand même pas rien. Et pour nous, c'était assez flatteur, finalement, qu'on fasse office de précurseur, d'explorateur dans ce domaine. Et comme vous l'avez signalé, non pas tout seul sur notre domaine, ça serait fait depuis longtemps, mais tous ensemble. Parce que l'idée, vous l'avez bien compris, c'est de protéger l'environnement au maximum, puis en même temps d'utiliser ce projet Yvorne Grandeur Nature en termes de communication pour vendre mieux nos vins et plus cher.
Bon, il faut prendre son bâton de pèlerin, aller convaincre les propriétaires, les vignerons.
Mais bien sûr.
Ça, c'est fait. Vous avez quel pourcentage des vignerons d'Yvorne?
À peu de choses près en termes de surface. Parce que c'est ça qui est important. On est à près de 80% des surfaces qui sont inscrites au projet Yvorne Grandeur Nature. Mais il y a évidemment quelques résistances que... Je perds pas espoir, parce que le constat aujourd'hui en termes d'environnement, je crois qu'il n'y a plus besoin de faire de grandes discussions. Il n'y a qu'à ouvrir la télé et puis on est au clair. Donc on sait dans quelle direction on doit aller, mais en même temps c'est compliqué. Travailler dans le sens de l'environnement, faire du bio, comme vous le disiez, ça coûte cher, ça produit moins. Dans une époque où le vignoble ne va pas extrêmement bien, et il faut trouver des vignerons qui écoutent ça.
Qui ont le sens de l'aventure.
Mais surtout qui voient plus loin que demain. C'est pas aujourd'hui le projet, c'est dans 5, 10 ou 15 ans. Quand on pourra vraiment utiliser ce projet Yvorne Grande Nature pour valoriser nos vins, à ce moment-là, peut-être que les derniers vignerons qui ne sont pas enthousiastes pour ce projet rejoindront le train du futur.
Ouais, moi, ça remue mes convictions démocratiques, votre affaire, là, parce que j'y réfléchissais en venant vous voir, et je me disais, En allant discuter, en prenant les gens les uns après les autres, en créant un modèle, on trouve le volontariat. Alors que si on avait fait une votation communale en disant « Est-ce que vous voulez que le vignoble passe au bio ?», ça aurait été refusé quasiment certainement.
Oui, probablement. Mais je peux vous donner différents scoops. Je vous ai parlé de Sassicaia tout à l'heure. Vous savez qu'Yvorne a un vignoble qui est très connu, mais on a également un grand domaine agricole. Toute la plaine du Rhône sur la commune d'Yvorne est cultivée en agriculture. La plupart des agriculteurs de la plaine du Rhône sont déjà en bio et nous ont demandé de rejoindre notre projet. Dès le départ, moi, je n'avais pas souhaité qu'on élargisse à l'agriculture parce que je trouvais que c'était déjà assez compliqué de le faire sur le plan viticole. Mais aujourd'hui, la demande, elle vient des agriculteurs de la plaine qu'on a rencontrés. Il y a une petite commission qui s'est mise en place. Il y a une journée de la biodiversité qui est fixée d'ailleurs au 4 mai, sauf erreur. Et à l'intérieur de cette journée de la biodiversité, nos amis de la plaine, qui sont agriculteurs, vont y participer largement parce qu'ils sont en tout cas aussi en avance que nous, si ce n'est plus. Alors, c'est extraordinaire de voir que, dans le fond, ça suscite des envies aujourd'hui, et finalement, comme tous les projets, on doit faire envie. Pour vendre une bouteille, il faut faire envie. Pour faire un projet comme ça, il faut faire envie. Les gens doivent avoir envie d'y participer.
Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour un producteur d'entrer? Parce qu'il y a un cahier des charges, hein, c'est pas juste une étiquette marketing. Il y a un cahier des charges. Qu'est-ce que ça implique?
Alors, ça implique un effort personnel. Ça veut dire de la part du propriétaire, de la part des collaborateurs. Il y a un cahier des charges qui est consultable, bien sûr, sur
Internet.
Élaboré
avec Changin, d'ailleurs.
Qui est élaboré avec Changin, qui est sous 8 chapitres, avec différentes mesures de base, moyenne et plus avancée. On y adhère, on le fait, mais on le fait à notre rythme. On a voulu faire un projet où il n'y a pas d'interdiction. On suppose que les gens vont le faire de manière enthousiaste. Et c'est ça qui est extraordinaire avec ce projet. Alors, les agriculteurs de la plaine y participent, à présent, c'est formidable. Notre garde forestier qui s'occupe du domaine des agites, enfin, les forêts communales, entre autres, y participent aussi au comité, donc les forêts en font partie. On a un projet global. Je dois avouer parfois que je me demande pourquoi tout le monde ne s'est pas levé spontanément en disant « c'est génial, faisons-le ».
Oui, ben pourquoi?
Mais parce qu'il y a quelques obligations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué. Parfois,
on va parler d'un exemple, les produits phytosanitaires. Qu'est-ce qu'on en fait? On n'en met plus? Fait différemment?
Mais il y a des programmes phyto qui sont dans le cadre bio. Il y a 1000 solutions. Mais ce qu'on veut, c'est limiter les herbicides, c'est éviter le glyphosate dans la mesure du possible, même si ce n'est pas un herbicide aussi épouvantable qu'on a bien voulu le dire. C'est limiter les produits phyto que vous avez évoqués. Il y a plein de solutions, il y a plein de vignerons qui le font. À côté de ma cave, il y a un vignoble qui fait de la biodynamie. Tout va bien. Mais il faut le faire sérieusement. Ce n'est pas un métier de rêveur. J'utilise des fois cette image un petit peu excessive de l'écolo qui a des boucles d'oreilles tout autour de la tête et des chapeaux en macramé. Il ne faut pas rêver pour faire ça. C'est du travail, c'est compliqué, c'est coûteux et ça produit moins, en tout cas au départ. Alors, c'est une équation qui est difficile à faire comprendre. Et je comprends parfois mes amis et collègues qui se disent « Attends, c'est déjà compliqué. Si on met encore une couche, ça va être encore plus compliqué. »
Vous m'avez dit être un vieux libéral dans la première partie de cet entretien. C'est écolo avec les sandales en macramé. Là, vous lui reconnaissez son utilité de lanceur d'alerte depuis 40 ans. On l'a bien souvent moqué, on l'a ignoré, on l'a combattu. Vous lui reconnaissez ça?
Mais bien sûr, on parlait tout à l'heure d'une conseillère nationale bien connue qui fréquente Montcarnot, si ce n'est assidûment, en tout cas de temps en temps. Évidemment que je comprends ça et j'y adhère. Seulement, il y a le fond et la forme. Et comme libéral, je veux dire, moins d'État, j'aime pas les interdictions, j'aime pas qu'on m'oblige à faire des choses. Et j'aimerais que les gens adhèrent à ce projet spontanément, volontairement, en comprenant l'intérêt qu'il a à moyen terme.
Bon, c'est là que je faisais la comparaison avec une votation communale. Hein. C'est tout à fait enthousiasmant de voir qu'en effet, on peut entraîner l'enthousiasme plutôt que demander de décider. Et puis les gens sont un peu tétanisés.
Bien sûr, je peux vous donner encore une information dans le cadre de ce projet Yvorne Grande Nature. Puisque nous sommes. Il n'y a que des scoops aujourd'hui. On gardera les meilleurs peut-être après l'interview. On a dans le cadre de ce projet, donc, non pas l'aide, mais la participation effective et dynamique de la Haute École de Changin. Dans le cadre de ce projet, une des scientifiques qui nous accompagne, qui s'appelle Serena Fantasia, nous a proposé de faire un travail de doctorat sur le changement climatique dans le cadre du vignoble d'Yvorne. Et ça suppose bien sûr un investissement conséquent sur 5 ans. On a trouvé le financement. Si je vous dis que c'est grâce à André Hoffmann, vous l'aurez compris, bon, mais à titre personnel,
co-président de ce projet.
Qui a accepté de financer ce projet pour imaginer ce que sera le changement climatique dans le vignoble. On va monter des petites serres sur certaines parties du vignoble pour imaginer quelle sera la
Créer des conditions de plus de température,
de
etc.
De plus de température, de moins de pluviométrie, et voir comment la vigne réagit au fil des années avec des sondages dans le terrain. Enfin, je vous épargne les détails, c'est un peu compliqué. Mais ça veut dire que dans ce projet, on fait vraiment un travail de précurseur. travail de précurseur qui non seulement a de l'intérêt pour nous, les vignerons, mais qui a un intérêt national et international, puisqu'il y a beaucoup de gens à l'étranger qui se disent « Non, ça bouge quand même pas mal à Yvonne, ce petit village méconnu que personne ne connaît. »
Ouais, en tout cas, ça fait envie, hein, ce que vous nous racontez, plus dans cette idée d'une profession qui prend les devants, hein, plutôt
absolument.
Que de voir arriver quelque chose qui s'annonce, pas
on
joyeux.
On n'est pas attentiste, on essaie d'être un peu proactif.
Bon, je reviens un peu à la faune, hein. Il y a aussi, là, c'est un complet retourné, hein. Plutôt que d'atomiser au napalm toute espèce vivante qui pourrait risquer de faire du mal aux raisins, on essaye de sauver les petits, les tout petits animaux qui sont là.
Absolument. Et d'ailleurs, on l'a appris avec Raymond Delarze, un des marqueurs de la biodiversité, c'est les mollusques. Alors nous, on voit les gros escargots qu'on mange de temps en temps dans nos assiettes, mais il y a tout le reste qui sont des marqueurs. Et c'est pour ça, dans le fond, qu'on a aussi institué ce système de